7h46 minutes. Vous écoutez Boulevard Against le matin avec Jeff Fortin, Jacinthe Varenne et Mathias Turcotte. Vous êtes sur Boulevard 101. 418-971-1021 pour réagir. Vous êtes plusieurs à le faire, vraiment plusieurs à le faire depuis le début de la matinée, notamment sur cette histoire de sac mauve qui sert de sac de lunch. Audrey Pinchot qui se fait faire la morale par le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance, qui n'a pas mieux à faire que de faire la morale à Audrey Pinchot au lieu de s'occuper de son Saint-Roch et de son Saint-Sauveur. Donc, ça vous a fait réagir parce que vous êtes plusieurs à l'utiliser pour d'autres choses que le compostage. Et on le rappelle, hein, 216 millions l'usine de biométhanisation de la ville de Québec, 155 millions fournis par la ville de Québec. Et Jacinthe, on n'est même pas foutu de trouver une façon de recycler ces sacs mauves-là. Avoir à l'incinérateur, pollue l'air de Québec. On parle d'une mauvaise qualité de l'air à Québec, une des pires à cause des feux de forêt. Il y a peut-être même des petits sacs mauves là-dedans aussi.
Oui, bien, il va falloir se poser des questions sur l'environnement au niveau global et arrêter juste de penser que c'est les automobilistes qui polluent notre environnement. Quand nous-mêmes, on a un incinérateur avec 6 cheminées qui brûlent nos déchets, quand on fait des rejets dans le fleuve Saint-Laurent, on en parle souvent des eaux usées. Oui. Puis ces fameux sacs mauves-là qu'on recycle pas et qu'on brûle à l'incinérateur, selon un auditeur, c'est inquiétant de voir que ces sacs-là, on n'a encore pas trouvé comment les recycler ou comment utiliser ce plastique là à bon escient plutôt que les jeter et les brûler. Là.
En plein ça. Et ce qui fait réagir aussi, c'est quand on parle de Donald Trump. Quel personnage polarisant.
Ben ouais.
Quel personnage politique qui fait toujours réagir nos auditeurs. Et là, il se passe quelque chose qui s'est à peu près jamais passé dans l'histoire, Jacinthe. Et c'est pour ça que je veux qu'on en parle. Parce que là, on est en train de voter pour redécouper la carte électorale au Texas. Mm-hmm. Et coup d'État, les élus démocrates quittent le Texas pour s'en aller se réfugier en Illinois ou à New York chez des démocrates pour empêcher justement ce vote-là parce que ça prend les deux tiers de la Chambre présente pour avoir le fameux quorum qu'on appelle pour passer au vote. Une Chambre qui est à majorité républicaine, donc cette carte électorale-là, quand on regarde les comtés qui seraient modifiés, il y en a 3 qui appartenaient aux démocrates qui se retrouveraient plus de la façon qu'on les redécoupe dans le camp des républicains. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il y a cette fameuse chicane démocrate-républicain. Je veux t'entendre en premier lieu sur le départ des démocrates. Moi, j'ai trouvé ça complètement invraisemblable. Ben on aurait dit des députés qui se sauvaient d'une situation de guerre.
Oui.
Non, mais c'est vrai, accueilli en Illinois, là, quasiment. Là. Et si vous êtes en sécurité?
Ouais.
Je comprends que Donald Trump est politisant, puis je te donnerai mon opinion sur la façon de faire du redécoupage de la carte électorale. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de stager ça à Hollywood un peu. Ça fait pas de sens hier.
Bien, je suis contente que tu aies cette lecture-là parce que, oui, Donald Trump est polarisant. Oui, on peut remettre en question le redécoupage de la carte électorale. En même temps, c'est un gros coup d'éclat. T'sais, c'est vraiment un coup médiatique. C'est le départ des représentants démocrates qui ont fui vers l'Illinois, New York, puis même le Massachusetts, pour priver le Parlement d'un quorum nécessaire pour ce vote-là. Mm-hmm. C'est carrément une insulte à ceux qui les ont élus, pour commencer, parce que tu représentes tes électeurs.
Ouais.
Tes électeurs, ça t'attend pas que tu sacques ton camp puis tu te sauves quand c'est le temps de voter.
Ça attend que tu livres le combat.
Ça attend que tu livres le combat, ça attend que tu plaides, ça attend que tu crées des alliances s'il le faut pour essayer de rallier les gens à ta cause pour avoir un vote favorable à ta cause à toi, mais certainement pas de se sauver comme ça. Alors, t'as raison, c'est un beau coup d'éclat, mais ça permet au monde entier de se tourner vers cette problématique-là et d'en parler. Mais je suis pas d'accord avec ça, c'est sûr, parce que je me dis, la base de la démocratie, c'est de remplir le travail. Là. Donc, t'as été élu pour remplir
t'as été élu pour siéger, être au gouvernement, au Parlement du Texas, je sais pas comment on l'appelle là-bas, mais bref, je vais utiliser ce terme-là.
Ouais.
C'est ton travail, tu te dois de le faire. Comme nous, c'est notre travail de venir commenter l'actualité ici sur les ondes de Boulevard 102.1. Fait que je peux pas rester chez nous un matin parce que Jacinthe Varelle a dit pas les mêmes affaires que moi.
Ouais.
J'ai pas le choix de me présenter.
Non.
Non, mais c'est vrai, tu sais. T'as pas le choix, ça fait partie de ton emploi. Gene Wu, un élu démocrate, justement, du Texas, qui a pris la parole une fois sain et sauf en terre illinoise, mentionne ceci. Je vous le fais écouter, puis on en discute par la suite.
The tool they're using is a racist gerrymandered map. A map that seeks to use racial lines to divide hard-working communities. And Governor Abbott is doing this in submission to Donald Trump so that Donald Trump could steal these communities' power and voice.
Il utilise la carte du racisme en disant qu'il y a des, justement, puis là, ben, t'sais, dans le fond, tu as la carte du Texas, ça, pour bien l'exprimer, puis tu me corriges si je m'exprime pas bien, mais pour tenter de bien l'imager pour nos auditeurs, c'est que le Texas est divisé en comtés, comme le Québec est divisé en comtés.
Ouais.
Et là, ben, dans ce redécoupage de cartes électorales-là, ce que Gene Wu, un élu démocrate au Texas, dit, c'est qu'on prend des comtés qui, normalement, sont en majorité des Hispaniques, ou des Américains qui ne sont pas de souche. Et on vient découper ces comtés-là pour faire en sorte que ça devienne des comtés républicains et que les gens hispaniques qui votent normalement démocrates n'auront plus le droit à cette démocratie-là et à ce représentant-là.
Ouais.
T'en penses quoi?
C'est une réalité. Moi, je suis allée au Texas l'année dernière, puis par exemple, la ville de Houston, dans le sud du Texas, c'est une ville qui c'est pas compliqué, là. On parle espagnol à peu près partout, là. T'entends de l'espagnol partout, partout. C'est vraiment...
Ressemble-tu beaucoup au sud de la Floride?
Oui.
Parce que moi, je suis jamais allé au Texas, mais je suis allé au sud de la Floride régulièrement.
Au sud de la Floride, effectivement, on parle beaucoup espagnol. Je dirais que c'est équivalent ou encore plus prononcé, là. C'est au moins équivalent au sud de la Floride, sinon plus prononcé. Alors, c'est sûr que, par exemple, dans le district 29, qui est Houston, par exemple, il y a une grande majorité d'afro-latinos. Donc, on parle beaucoup espagnol. Il y a des communautés latines qui sont là. Est-ce que là, les démocrates dénoncent un biais racial. Est-ce que c'est un biais racial ou c'est simplement on le fait ici au Québec, je vais faire le parallèle, mais on le fait ici au Québec aussi avec, sur l'île de Montréal, par exemple, il y a des secteurs plus anglophones dans l'ouest de l'île de Montréal, on fait du redécoupage. Tu sais, est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est du, je vais trouver le bon terme, là, mais est-ce que c'est un biais racial que de redécouper
qu'on fait de la ségrégation,
en fonction des anglophones qui ont plus tendance à voter libéral que les francophones?
J'aime vraiment que tu me parles du Québec parce que je te fais écouter, là ça date du 28 mars 2024, mais je te fais écouter Jean-François Roberge en conférence de presse, accompagné de Moncef Desragies du Parti libéral du Québec, Sol Zanetti de Québec solidaire, et également on avait cette conférence de presse-là, Pascal Bérubé du PQ. Je te fais écouter et on en parle par la suite.
Après discussion avec mes collègues, les oppositions, je pense qu'on a un consensus. Mieux que ça, je pense qu'il y a une unanimité encore, ce qui est quand même très rare et qui doit être apprécié. Donc, j'annonce aujourd'hui l'intention gouvernementale, avec les collègues, de présenter un projet de loi qui vise à suspendre le processus de révision de la carte qui est actuellement en cours. Si le projet de loi était adopté, eh bien, la carte qui est en vigueur, qui était donc en vigueur en 2022, serait en vigueur aussi en 2026, sans changement.
Là, je vous mets en contexte. 28 mars 2024, puis c'est un projet de loi qui a été, justement, qui a passé à travers les tribunaux et qui a été admis comme valide le 29 mai dernier. La commission indépendante qui est en charge de la carte électorale avait dit « On enlève une circonscription à Gaspésie, on enlève une circonscription à Montréal. » Fait que là, c'est pour ça que je voulais faire le lien. Mais les anglophones à Montréal, on vous enlève une circonscription, il va y avoir un regroupement pour en créer une au centre du Québec et dans les Laurentides. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben le PQ, qui normalement gagne les comptes en Gaspésie, on dit ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils sont allés voir papa la CAQ pour dire ils peuvent pas faire ça, la commission.
Ouais.
Les libéraux qui gagnent toujours les comptes anglophones sont allés voir papa la CAQ pour dire ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Puis QS qui se dit toujours démocratique a suivi là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de laisser la commission indépendante gérer la carte électorale, on a passé un projet de loi pour faire en sorte que la carte reste identique à ce qu'elle était. Et à ce moment-là, la CAQ avait tout intérêt à ce que ça reste identique parce qu'il y avait une majorité écrasante au niveau du gouvernement, ce qu'il y a encore, soit dit en passant. Alors, on est venu torpiller, justement, le système démocratique au Québec.
Ouais.
Fait que moi, hier, quand j'ai vu ça, j'ai fait « ça m'énerve quand on fait ça ». Moi, je suis pour un système démocratique. Je suis pour une liberté. Moi, je pense que ça devrait être des commissions indépendantes qui disent « Voici la carte électorale en fonction de la démographie. » Parce ouais. que, je vais le dire de même, c'est des fichiers Excel que tu rentres dans la machine puis ça te dit « Il y a combien d'électeurs à chaque place? » Puis tu dis « Mais voici ouais. mes circonscriptions. » Fait que ça m'énerve. Mais ce qui m'énerve, c'est que là, hier, on en a fait grand pas ouais. dans les médias en disant « Regardez le méchant Donald Trump. » Mais Colin, on fait la même affaire au Québec.
Ben oui. Tu dois être un des seuls au Québec à avoir fait le parallèle, mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que ça, ce genre d'exercice se passe aussi chez nous.
Ben oui! Tu sais, c'est Alejandro écrit, c'est de l'ingérence politique. En effet, ouais, et ouais. la CAQ en fait ouais. à profusion. Ouais. On n'a qu'à penser, on parlait dernièrement de la régie de l'énergie.
Ben oui.
La régie de l'énergie, là, c'est indépendant. Puis ça dit, voici comment ça coûte faire de l'hydroélectricité, puis voici qu'est-ce qu'on doit aller chercher en revenus, puis voici les augmentations qu'il faut faire au résidentiel, au commercial, puis à l'industriel. Ouais. Ouais. Là, la CAQ s'est mis le nez là-dedans, puis est en train de faire ça tout croche, puis de démolir ben oui. déjà le déséquilibre qu'il y avait, est en train de le créer encore plus grand en s'ingérant dans quelque chose qui est censé être indépendant. La CAQ a fait la même affaire avec la carte électorale, et là, ça m'énerve. Ouais. Fait que c'est sûr que la situation t'exhauste, qui arrive, je trouve ça antidémocratique. Ouais. Mais par contre, je suis contre les médias qui décrit cette situation-là ouais. comme « Donald Trump, c'est un gros voleur de démocratie ». On fait pareil au ouais. Québec.
Oui, oui, les redécoupages de cartes électorales, c'est pas... on fait pareil ici, on le fait au Québec, on le fait au Canada aussi. Et c'était pas une première non plus au Texas. Là, ça a été fait en 2003 puis en 2021 aussi. Là, ce qu'on dit, c'est qu'habituellement, il faut faire ce redécoupage électoral 10 ans, tous les 10 ans après le recensement, mais pas en cours d'une décennie. Mm-hmm. Donc là, on dit que le momentum n'est pas bon, mais le momentum est bon pour les Républicains qui veulent s'assurer d'une majorité aux élections de mi-mandat.
De mi-mandat, exactement.
Absolument, mais c'est pas le premier parti politique à utiliser ces stratégies-là de redécoupage. En même temps, tu dis, si on confie ça à une autorité indépendante, le problème, c'est qu'on vit dans une société extrêmement polarisée, polarisante.
Ouais.
Et même dans les sociétés dites indépendantes, t'sais, on le voit, il y a du militantisme partout. Il y a de la partisanerie partout. On le voit même dans les médias, nos collègues. On écoute des postes de radio. On sait que certains postes ont plus une tendance péquiste. D'autres postes ont plus une tendance libérale.
Bon, ouais, alors ça existe pas, ça.
Il y en a juste pas qui ont une tendance conservatrice, mais c'est péquiste,
non,
c'est libéral.
Non, mais ça existe pas, ça. Au référendum de 95, la presse avait pas écrit pour le camp du non.
C'est
ça. Les journaux de Québécois pour le camp du oui. Voyons donc, ça a été...
Mais justement, dans cette société-là où même les journaux, même la télé, même ouais. les journalistes, les commentateurs ont un parti pris, ont des biais importants. Tu peux pas penser que tu crées une société, élection Québec, élection Canada, puis dire que ces gens-là sont tous, tu sais, ils sont...
Ouais, t'as raison.
Ils ont un devoir d'objectivité, ils ont un devoir de neutralité, ouais. ils ont ce devoir-là, mais tu sais... Oh, j'en vois trop, là. Moi, depuis que je suis dans les médias, j'en vois trop qui ont le devoir de neutralité puis d'objectivité puis qu'ils le font pas.
Tu viens enlever ma naïveté. J'aime pas ça quand tu fais ça.
Donc, tu sais, tu pourrais penser qu'un organe externe qui vise à redécouper, à refaire le découpage électoral, bien, s'il est incarné par une majorité de gens qui ont telle ouais. orientation politique, bien, ça pourrait changer le redécoupage électoral. Fait que j'ai de la misère à croire qu'on peut vraiment avoir des entités complètement indépendantes. Mm-hmm. Faudrait quasiment que ce soit une juridiction à côté qui vienne te dire.
Qui vienne, ouais,
moi,
c'est ça.
Découper ça, moi. Je connais pas
votre situation.
Faudrait que
l'Ontario découpe
oui,
la carte
ça.
Du Québec. Ouais, exactement. On va demander à Israël de nous découper la carte des États-Unis.
Ouais, c'est
ça. Tant qu'à y être, tant qu'à être sorti. Je termine pareil parce que je dois t'avouer que le poil me levait ses bras quand j'ai entendu Greg Abbott, le oui. gouverneur du Texas, qui s'en cache pas, c'est complètement partisan. Je te laisse entendre l'extrait.
Why now? Two reasons. One is, since we last did redistricting, there's been a change in law. A court decision affecting Texas came out and said that coalition districts are no longer required, and it's perfectly legal to dismantle coalition districts. The second is, gerrymandering can be done, or drawing lines can be done, on the basis of political makeup, as in Republican versus Democrat, and there's nothing illegal about that. And then when you look at the outcome of the most recent presidential election, all these districts that are being added are districts that were won by Trump. Here's the point of that. these voters in these districts won by Trump, they don't have the ability to vote for their candidate of choice now because they're in congressional districts. They're in a Democrat district as opposed to a district won by Trump.
Alors voilà, pour faire une traduction, bien, premièrement, il dit il y a deux raisons pourquoi on le fait. Premièrement, parce que la loi nous permet de le faire. Ouais. Puis deuxièmement, parce qu'on veut donner l'opportunité, justement, aux gens de d'élire là, un représentant qui va les représenter, voire un représentant républicain. Donc, ça me chatouille. Je vais prendre ce terme-là pour essayer d'être poli. Ça me chatouille quand on joue avec la démocratie comme ça. J'apprécie pas.
Ben, je serais curieuse de voir si les démocrates l'ont fait dans le passé aussi, dans d'autres États. Et c'est là où il faut avoir cette rigueur-là de dire, là, on peut tomber facilement
dans... C'est pour ça que je prends le terme chatouille, parce que jusqu'à présent, dans les recherches que j'ai faites, j'en ai pas trouvé, mais tu sais, je veux dire, je suis pas infaillible, fait que je veux pas commencer à décrier les républicains font de quoi que les démocrates ont jamais fait, sans avoir la certitude à 100%. Ce que je sais, par contre, c'est que il y a plusieurs États, dont l'État de la Californie, que les lois permettraient pas ça. Donc, si Gavin Newsom voudrait demain matin dire, OK, c'est beau, moi, tu crappais ça, les républicains en Californie, il peut pas.
Moi,
en même temps, Californie, c'est démocrate. Fait que ça fait son affaire que ça reste de même aussi.
Oui, en effet.
C'est très fortement démocrate.
Puis t'es là, que les démocrates l'aient fait ou non, je veux dire, au final, moi, de voir un gouverneur venir puis dire « Hey, on va se rajouter des sièges aux prochaines élections pour augmenter nos chances de gagner », que ce soit déjà vu dans l'histoire ou que ce soit pas vu dans l'histoire, ben je pense que ça démontre une faille très claire dans la démocratie qui est complètement inacceptable.
Clairement, t'as raison.
À un moment, on a un équilibre dans les pouvoirs qui doivent être respectés. Puis moi, la question que j'ai, c'est pourquoi c'est illégal de faire ça, de dire « Hey, nous autres, on découpe ça pour avoir plus d'élus. On le fait d'attitude. » Pourquoi ça, c'est illégal? C'est entièrement anti-démocratie.
Et moi, la question que j'ai, c'est est-ce que ça va amener cette fameuse escalade-là? Parce que là, il y a la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, qui a dit « Ouais, ben check mon balai, moi aussi, je vais faire la même affaire. » Donc là, est-ce qu'on va se devenir dans une espèce d'escalade aux États-Unis incontrôlable?
Ouais.
Puis que, en bout de ligne, un vote aurait plus la même signification?
Bien, les votes vont avoir la même signification, mais c'est vrai que si l'ensemble des États se met à faire du redécoupage électoral, États démocrates aussi vont aussi favoriser leurs États. C'est puis ça. Les États... Effectivement, on entre dans une escalade, mais c'est les limites de notre démocratie. Moi, je dis pas qu'on est antidémocratique actuellement ou on assiste à quelque chose d'antidémocratique. On touche aux limites de notre démocratie, de nos démocraties. Où elle est la ligne du découpage électoral idéal? Est-ce qu'en ce moment, c'est l'idéal? C'est sûr que si on veut la mettre à son avantage, mais en même temps, les gens sont...
Ben moi, c'est clair que quand on parle de découpage électoral puis qu'on vient politiser le dossier, déjà là, je trouve ça particulier. Ben puis autant ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait au Québec. Ouais. Là, je vais être clair là-dessus. Là, moi, je décris les deux situations.
Oui, absolument. Ça va être très intéressant à surveiller parce que là, le vote n'a toujours pas eu lieu. Là.
Non, c'est ça. Et là, quand est-ce que ces élus-là vont revenir au bercail?
C'est 57 démocrates qui sont partis.
Greg Abbott, le gouverneur, a laissé planer qu'il pourrait avoir des sanctions judiciaires contre eux. Donc, non, on n'a pas fini d'entendre parler de cette situation-là.
C'est vraiment une télé-réalité. Moi, je regarde ce qui se passe de l'autre bord de la frontière. Puis depuis l'arrivée de Trump, il n'y a personne qui peut venir me dire que la politique, c'est pas divertissant.
Non,
mon Dieu, c'est une vraie télé-réalité.
C'est le meilleur soap américain.
On est dans un film d'action, les démocrates qui se sauvent en quelqu'un comme s'ils étaient en danger pour sauver le monde. Hey, je comprends que moi aussi, je trouve ça complètement cave que le gouverneur dise on veut se rajouter 5 sièges. Mais là, on parle pas d'une crise mondiale. Là. On parle quand même juste d'un vote pour un redécoupage électoral.
En effet.
Dans un État qui est déjà républicain.
Qui est déjà républicain, en effet. Il y a un autre sœur qui nous écrit. Je cherchais un pendant s'il y avait déjà eu quelque chose au Canada. Il écrit Stephen Harper l'avait fait en fusionnant Limoilou et Beauport. C'est vrai qu'en fusionnant Limoilou et Beauport, tu avais deux circonscriptions qui votaient complètement différemment se sont retrouvés ensemble.
Et finalement, ça n'a pas donné. À long terme, ça n'a pas donné grand-chose.
Ça a salué au Bloc québécois et Julie Vignola et là au Parti libéral avec Steve Lavoie.
Ben oui,
donc
la stratégie
de Stephen Harper n'a pas marché.
À long terme, ça n'a rien donné. Ben, c'est la preuve que les redécoupages sont circonscrits dans le temps.
Oui, c'est circonstanciel.
Oui, c'est ça. C'est qu'en ce moment, ça peut être favorable à un parti, puis demain matin, ou sais, dans quelques années, ça change complètement. C'est vrai, Limoilou-Beauport, c'est un bel exemple.
En plein ça. On fait une courte pause, on revient avec l'essentiel de l'actualité. Puis je veux, entre autres, qu'on parle justement de ce... de cet argent sauvé-là, très minime du RTC durant la grève, 248 000 $. Et là, je me dis, ben coudonc, l'enjeu est ailleurs dans ces négociations-là. Je suis allé rechercher un petit extrait là, de l'entrevue qu'on avait fait la semaine dernière avec Nicolas Loisel. Je veux t'entendre là-dessus, Jacinthe-Ève. D'après moi, on est plus sur la productivité que sur la masse salariale. On parle de tout ça après cette courte pause. Vous êtes à Boulevard Against le matin sur Boulevard 102.1.
On s'arrête 2-3 minutes.